Heureux de vous accueillir, bonjour à toutes et à tous dans cette émission qui n'a pas du tout une Rolex à la place du cerveau, mais vous le savez depuis longtemps, avec aujourd'hui à la technique Arnaud Chapa et Dimitri Gronoff. Et un grand merci à nos amis de France Bleu Armorique à Rennes qui m'héberge aujourd'hui avec Thibaut Bourgeon à la technique. Merci également à Sophie Ledoré, notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza, et c'est Xavier Pestugia qui réalise cette émission. Avec une émission donc qui empêche de réchauffer, de penser, mais aussi de téléphoner en rond, avec au menu du Grenelle des ondes inauguré cette semaine, eh bien le grand dilemme que vous connaissez du 21e siècle pour une des espèces les plus bavardes de la planète, être au téléphone ou ne pas être. Avec quelques doutes sérieux quand même quant aux effets sur notre santé de ces merveilleux gadgets qui nous permettent de rester connectés 24 heures sur 24, antennes relais, réseau Wi-Fi et autres portables de 3e génération. Alors des antennes relais inoffensives, si l'on en croit donc les études sponsorisées par notre bande organisée d'opérateurs téléphoniques, déjà condamnés, rappelons-le, pour entente illicite commerciale, et qui après avoir ferré 50 millions de clients, dont nous sommes tous d'ailleurs, en une quinzaine d'années, eh bien n'entendent pas ouvrir un large bec et laisser tomber leur proie. Et puis on nous explique que les radiofréquences, comme on dit, ben nous sommes tombés dedans les uns les autres quand on était petits. Ben oui, sans oublier alors la télévision, les lignes électriques à haute tension, les fours à micro-ondes, le pass Navigo, j'en oublie. Rien de tout cela, nous assure-t-on, ne nous a jamais rendu malades. Bref, d'après tout ce beau monde, l'homme moderne nage dans l'univers des ondes électromagnétiques comme un poisson dans l'eau. D'ailleurs, une antenne relais qui n'est même pas capable de vous tordre la moindre petite cuillère à 100 mètres, comment voulez-vous qu'elle vous abîme le cerveau, hein ? Le coupable, voyez-vous, c'est le téléphone portable, libre à vous d'ailleurs de vous en servir ou non. Allô, oui, le service client, oui, je vous appelle sur mon portable pour vous dire qu'on vient d'installer une antenne relais devant ma fenêtre, c'est une honte, mais ne craignez rien, mon brave monsieur. Pour compenser, vous n'avez qu'à téléphoner depuis votre téléphone fixe, et voilà, et dans la série, on n'arrête pas le profit, non, pardon, une faute de frappe, on n'arrête pas le progrès, voilà, c'est ça. Eh bien, le dernier gadget à la mode, ce n'est pas le portable pour chien, c'est l'émetteur directement greffé dans l'oreille dès la naissance. Et oui, discrétion assurée pour vos conversations et grâce à la balise Argos de vos petites têtes blondes, eh bien, vous les suivrez sans souci sur le chemin de l'école. D'ailleurs, comme dirait l'autre, le portable qui vous préchauffe le cerveau, eh bien, ça vous le ramollit juste ce qu'il faut pour les pubs vidéo du genre « Avec le gazole bio au jus de betterave, mon 4x4 roule plus vert », etc., etc. Au moins, les scientifiques sont sûrs d'une chose, avec ou sans études contradictoires, la publicité sur écran de portable, ça rend complètement con. Bref, en attendant le prochain Grenelle des effets nocifs de la publicité sur le cerveau, je vous rassure tout de suite, chers amis auditeurs, écoutez la différence à la radio, c'est absolument sans danger. Alors au menu de cette émission, un petit coup sur la route de Moselle. Jean-Marie Pelt nous emmènera respirer, donc chez lui, donc nous serons en extérieur avec lui. Et puis je vous parlais effectivement d'une diversité de questionnements, ça va être réponse aux questions que vous nous avez posées tout à fait régulièrement, je dirais à la fois par mail ou bien sur le 56 40 01 56 40 40 35. Nous parlerons alors aussi bien, dans le plus grand des désordres, du réchauffement du côté du pôle Nord, de litière végétale pour chats, de viticulture en 2030, d'huile de palme, d'ethnopharmacologie, donc beaucoup beaucoup de choses. Et puis comme on aime bien la diversité aussi, la musique c'est pas mal non plus. Allez, on débute avec ce premier disque choisi par Emmanuel Chupin qui s'appelle Private Domain.
Fame in the middle of nowhere. years go by, we'll have to pray. Dear, dear, that's not the way. As tears go by, we'll have to pray. We'll have to pray.
Des jeunes gens, donc Private Domain, qui savent redonner vie donc à des musiques un peu plus anciennes. C'était donc Here in This Place. Et nous allons retrouver un homme que vous connaissez rituellement pour débuter cette émission, qui est pharmacien, ancien enseignant, toujours raconteur du monde végétal et de temps en temps... entre un certain nombre d'enregistrements que nous faisons chez lui, je lui dis « Allez, Jean-Marie, il faut sortir un petit peu, on enfile les chaussures de marche. » Il me dit « Quoi ? Encore, Denis ? Oui, il faut aller perdre 100 grammes. » Et donc là, on les a perdus du côté de la route de la Moselle, une route qu'il affectionne particulièrement. Donc, reportage avec Jean-Marie Pelt dans son département. Nous avons là de la belle douceur. On va se retrouver avec Jean-Marie Pelt dehors, au grand air. On a un peu quitté la Lorraine, mais on n'est vraiment pas loin. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors on est sur une route que vous affectionnez particulièrement. Ah. Racontez-nous là ce que nous avons.
Vous voyez, regardez à droite, je tends la main, vous voyez une borne.
Ouais.
C'est une borne frontière. Cette borne nous sépare de l'Allemagne. Nous sommes sur un haut plateau, vous voyez, une vision très lointaine. Maintenant, regardez à gauche. Vous voyez une autre borne.
Ah oui, oui, oui.
Alors, il y a deux bornes. Alors, question, quand on est entre les deux bornes,
bien sûr,
est-ce qu'on est en France ou est-ce qu'on est en Allemagne? Eh bien non, on n'est nulle part. Nous sommes dans un no man's land. C'est un cas extrêmement rare. Je crois qu'il est unique en Europe. Ce no man's land a été choisi par des artistes de toute l'Europe pour... faire des sculptures, vous voyez, ces gros menhirs que vous voyez partout. C'est ce qu'on appelle le chemin de la paix et de la réconciliation. Il y a 31 artistes qui ont travaillé ici, il y en a encore qui sont en train de travailler. Vous voyez là-bas, tout là-bas, il y en a un qui est en train de tailler. Et il y a d'ailleurs aussi un artiste israélien et un artiste palestinien qui ont travaillé ensemble. C'est un lieu de paix et de réconciliation entre nos deux pays.
On a la Moselle qui est super, donc Valais quand même assez encaissé. Le Luxembourg est juste là.
Absolument, il est exactement en face. On va y aller d'ailleurs, en pensée en tout cas, et on va tomber sur un lieu...
On pourrait presque y aller à pied.
C'est pas loin. Sur un lieu célèbre qui s'appelle Schengen. Alors là maintenant, tout le monde sait où on est.
Les
tout le monde a compris.
Vive
l'accord de Schengen. C'est là qu'on a enlevé les frontières. Donc vous voyez que cette histoire de frontières est amusante. Il y a ce chemin qui fait bizarrement une frontière, et il y a Schengen qui enlève les frontières. Bon, c'est là qu'on a supprimé tous les postes de douane entre les pays européens. Alors cette frontière, c'est la frontière entre l'Allemagne, la France et le Luxembourg. Maintenant, on se pose ici. On est à Schengen, on se pose.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'on voit? Au nord, Trèves, capitale de l'empereur Constantin, qui y a passé son enfance et sa jeunesse avant de devenir le père de Constantinople. Donc un personnage extrêmement célèbre.
Voilà pour Trèves. Ensuite.
Ensuite, on regarde à l'ouest. Ouais. On voit Luxembourg. Oui. Et Luxembourg, c'est une des trois capitales de l'Europe, puisque c'est le secrétariat en particulier du Parlement européen. Ensuite, on regarde au sud maintenant. Alors là, on voit un petit village qui s'appelle Étanche-Grande, qui est connu dans le monde entier parce que, pour les géologues, il correspond à un âge de la Terre, le Étangien, tout au début du Jurassique, c'est-à-dire contemporain de l'époque où commencent à faire parler d'eux les très fameux dinosaures. Mmh. Et c'est dans cet âge de la Terre qu'on a vu apparaître les premières grenouilles. Donc cette falaise étangienne est un monument très important dans le monde entier pour les géologues. Ensuite, on continue vers le sud, on arrive à Metz.
On est chez vous là.
On est chez nous à Metz. Alors, ce que je voudrais dire ici, c'est que Metz, c'est le berceau de la famille de Charlemagne. Son arrière-arrière-grand-père était évêque de Metz, mais il avait fait ses enfants avant de devenir évêque. Et les Pépins,
il fait bien ce qu'il veut,
les Pépins, vous savez, Pépin le Bref, oui. Les Pépins, ils sont de Metz. Il y a d'ailleurs un village qui s'appelle Pépinville. Et puis, c'est aussi le lieu où a été pendant longtemps résident Robert Schumann.
Jean-Marie, parlez-nous quand même un peu, j'allais dire, de cet écosystème là, qui est la Moselle. Parce que je sais que vous avez une tendresse particulière donc, pour ce fleuve, qui part des Vosges, hein, qui part au-dessus de Bussan, hein, donc
oui,
les sources de la Moselle.
Absolument.
Et puis là, qui prend quand même une autre dimension. Alors c'est un fleuve, on va dire, qui est marchant, parce qu'il y a ces bateaux que l'on voit passer.
C'est en effet canalisé. Alors la Moselle est un très beau fleuve. Vous la voyez ici, qu'elle traverse ses vignes. Et une histoire très drôle d'ailleurs, parce que du côté français, vous voyez, il n'y a pas de vignes. Mm-hmm. La frontière, vous la voyez très facilement dans le paysage, parce que du côté luxembourgeois, il n'y a que des vignes.
Oui.
Et du côté français, il n'y a que rien du tout.
Alors pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que quand la France a colonisé l'Algérie, le vin d'Algérie est venu en France. Et ces vignerons ont été totalement ruinés, mais par le même mécanisme que celui qu'on évoque pour les pays pauvres en ce qui concerne la faim, c'est-à-dire qu'on a vu arriver du vin moins cher, comme les pays riches exportent à bon marché des aliments dans les pays pauvres, ce qui empêche les pays pauvres de pouvoir cultiver leur culture vivrière. Ben, c'est exactement ce qui s'est passé, et un cousin de maman a été totalement ruiné, comme tous les vignerons de Sierck à l'époque. Alors ils étaient désolés, parce que pendant tout de même 48 ans, ils avaient attendu le retour de la France, n'est-ce pas ? C'était le grand rêve. Un jour, nous redeviendrons français. C'était entre 70 et 1918. Et quand ils sont revenus français, catastrophe. Ils ont été ruinés. C'est l'histoire. Mais c'est l'histoire liée au terroir.
Ce que l'on voit, c'est que ces terroirs vont bien sûr encore évoluer. Je veux dire que dans le changement de civilisation que l'on est en train de vivre, on va avoir de plus en plus de relocalisation. C'est-à-dire qu'avec cette énergie qui va être de plus en plus chère, les gens ne se rendent pas compte à la fois de la vitesse et de l'ampleur de tous les phénomènes que nous avons, que ce soit réchauffement climatique, énergétique, etc. On va retrouver une autre manière de vivre ensemble.
Oui. Alors ici, vous voyez, on vit ensemble avec nos voisins luxembourgeois et allemands. Et d'ailleurs, cette région aurait pu devenir la capitale de l'Europe, puisque Robert Schuman avait imaginé que l'on crée une ville capitale un peu comme Washington, un district européen. Il y a même des plans que j'ai vus plusieurs fois où on avait imaginé une capitale de l'Europe. Ça n'aurait pas été mal, parce que le fait qu'on a trois capitales, Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, et que pour aller de Luxembourg à Bruxelles, sur moins de 200 km, on met 3h30 par train, c'est pas très logique. Moi, je voudrais qu'on considère cette région comme une région profondément européenne et qu'à ce titre-là, on la soutienne vraiment.
Jean-Marie, là, il y a aussi quand même quelques pommiers parce que c'est pas simplement l'apanage de la Normandie et puis d'autres coins de France, ce qui n'est pas non plus fait Normandie, loin de là. et qui se porte bien.
Oui, oui. On entend le bruit, le bruit de la mastication. Regardez Sercompomme cette année. Hein. Alors cette région n'a pas eu de Mirabelle cette année.
Oui.
On n'a pas eu de Mirabelle.
Mais le botaniste que vous êtes est incapable aujourd'hui de dire pourquoi il y a des années à Mirabelle et pourquoi il n'y en a
pas. Non, je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas et quand je demande à d'autres botanistes amis, ils ne savent pas non plus. Parce qu'on ne sait pas tout. Et en rédigeant mon livre sur la raison du plus faible, j'ai quand même été frappé de l'immense complexité de la nature et combien il est difficile de prétendre qu'on sait tout, comment ça s'est goupillé, que par la seule sélection naturelle, tout ça s'est fabriqué. Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué et nous ne savons pas tout. Et quand on est un scientifique, biologiste déjà d'un âge respectable, on finit par se poser les bonnes questions et parfois on se pose la question suivante, comment ai-je pu dire ça au cours puisque manifestement, c'était pas vrai.
Non, mais c'est bien, vous êtes un monde honorable, vous êtes un homme lucide. Eh bien, on va s'arrêter là. Moi, je vais ensemencer, vous voyez, avec le trognon. Hop, ça y est, un peu plus loin, je vous rassure, dans un champ. Hein,
bien sûr. Oui.
Voilà. Et puis donc, cet arbre va encore se déplacer de... Allez, j'ai fait quoi, 20 mètres ?
20 mètres.
Ouais, pas mal. Pas
c'était
mal.
Pas mal.
De la main gauche, parce que j'ai quand même le micro dans la main droite.
C'était,
donc,
c'était pas mal.
Je suis moins bon de la main gauche. Merci Jean-Marie Pelt, et puis à très bientôt. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Avant que je sois KO, oh Doc, emmène-moi danser des folles tarentelles. Pour toi, je serai belle. Oh Doc, emmène-moi si tu m'aimes. Revoir grésiller mes neiges éternelles. Sois mon cavalier, coule dans mes sillons, de ton ombre adorée. Dans mon électrochoc, Ladyland. Dans mon électrochoc. Comme ici-bas, où je suis classé en vrac, ramène-moi là-bas, oh Doc, tourne le bouton rouge, je suis si fatigué, laisse-moi m'envoler, oh Doc, vers ces cieux d'incendie, tout chargé de séisme. Seconde infinie, oh Doc, sonne mes séraphins, préviens-les que j'arrive, que je suis en chemin, vers mon électrochoc, Ladyland. Ladyland.
Ah bah oui, ça fait un petit choc, enfin même un électrochoc land. Babix, donc, après cette découverte, on va dire, ce petit tourisme européen, Médine Jean-Marie Pelt sur la route de Moselle. Donc, émission aujourd'hui, parce qu'on a un répondeur qui a fait un peu grève pendant 8 mois, donc on ne savait pas très bien quoi faire avec Xavier Pistuggia, puis un jour on l'a lâché par terre, il s'est mis à partir. Enfin, je vous fais simple, en gros, c'était ça. Et donc, beaucoup de questions sont arrivées, on a pu en reprendre. Au 01 56 40 40 35, première question, c'est parti.
Bonjour Isabelle du département des Yvelines. J'avais juste une petite question à vous poser. Je me demandais simplement pourquoi le pôle Nord se réchauffait-il plus vite que le reste de la planète. Et merci pour votre réponse.
Eh bien, écoutez, merci à vous Isabelle. Déjà, une bonne nouvelle, dans les Yvelines, ça se réchauffe moins vite que du côté du pôle Nord. Et donc, j'ai demandé à Jean-Marc Jancovici, qui a sorti donc un nouveau que l'on connaît dans cette émission, qui est un homme aussi, qui est tout à fait qui est intéressant, parce que ça fait du bruit en général quand il parle, cet homme-là, les gens sont d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, ça existe vraiment, et qui a écrit « C'est maintenant 3 ans pour sauver le monde ». Donc, Jean-Marc Jancovici, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Isabelle?
Alors, l'une des raisons pour lesquelles ça se réchauffe plus vite au pôle que chez nous... Oh non, il y en a plusieurs, pardon, des raisons pour lesquelles ça se réchauffe plus vite au pôle que chez nous. La première, c'est que l'effet de serre est dû à 2 gaz, principalement sur Terre, qui sont le CO2 et la vapeur d'eau. Au tropique, l'air est déjà très riche en vapeur d'eau, parce qu'il y a beaucoup d'évaporation. Et à ce moment, le surplus de CO2 qu'on rajoute dans l'atmosphère ne fait pas un supplément d'effet de serre qui est très important. Alors qu'au pôle, qui sont des endroits très froids et donc extrêmement secs, le surplus de CO2, qui va être le même, parce que le surplus de CO2 est à peu près le même partout sur Terre, va avoir un effet qui va être proportionnellement plus important. Donc ça, c'est la raison pour laquelle ça va se réchauffer plus vite au pôle qu'au tropique. Et puis à cela va s'en rajouter d'autres, c'est que le système va réagir de telle sorte que ça va encore amplifier ce réchauffement. La première réaction, c'est qu'on va avoir moins de neige qu'avant, haute latitude, et la banquise qui va se mettre à diminuer un peu. Et la neige comme la banquise sont des surfaces très réfléchissantes et ça va être remplacé soit par de la végétation ou de la terre, quand on est sur les continents, soit par de l'eau océanique libre, bleu foncé. Donc tout ça est très absorbant et donc ça va plus absorber la lumière du soleil que la neige ou la glace qu'on avait avant.
Ce qu'on appelle l'effet albédo, quoi.
Exactement. Et donc ça va accélérer le réchauffement. Donc en gros, il y a à la fois des effets directs, celui lié au supplément d'effet de serre, et des effets indirects qui sont liés au fait que la modification même du système va amplifier le réchauffement.
Et par rapport donc à un pays tempéré comme le nôtre, c'est quand même extrêmement important. Ça peut jusqu'à 4-5 degrés. On ne parle pas de météo, on est bien d'accord, mais effectivement de réchauffement, quoi.
Alors en gros, quand le climat planétaire gagne 1 degré, il faut au Groenland, on va en gagner, allez, prenons une fourchette large, entre 3 et 5.
Voilà, donc ça c'était les premières bonnes nouvelles, donc signé Jean-Marc Jancovici avec cette explication. Comme les sujets vont un peu dans tous les sens et donc extrêmement vastes, bah écoutez cette seconde question.
Bonjour, je m'appelle Aristide, j'habite à Lyon et j'aimerais savoir s'il existe de la litière écologique pour mon chat. Merci pour votre réponse, au revoir.
Voilà, je ne sais pas s'il s'est trompé, si c'était pour Noël Bréham, la question ou bien pour nous, mais en tout cas, c'est tout à fait sympathique. Et on va essayer de te répondre, Aristide, donc à Lyon, donc ami des chats et des rongeurs. Et surtout Nicolas Dubois avec nous, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors Nicolas Dubois, vous êtes directeur marketing chez Rettenmeier. Rettenmeier, c'est une société extrêmement importante qui se trouve dans le sud de l'Allemagne. Qu'est-ce que l'on y fait?
Alors, chez Rettenmeier, on est spécialiste de la fibre de bois et de la fibre de cellulose. Donc, en fait, on récupère, entre autres, les déchets de scierie pour les valoriser.
Alors, je veux dire qu'il y a une petite niche qui nous intéresse bien. Donc, c'est la litière pour chats écolo. D'abord, quand même, un chiffre extrêmement important. Ça représente un sacré volume dans les poubelles, ça.
Ah, c'est énorme, en fait, hein, puisque j'ai eu l'occasion de m'intéresser au sujet. J'ai fait un master, il y a peu de temps, en éthique et développement durable. Et donc, j'ai creusé ce qui s'appelle l'analyse de cycle de vie du produit. Et j'ai découvert à cette occasion que la litière était le déchet numéro 1 des Français. 400 000 tonnes, donc c'est absolument colossal. Un petit chiffre qui sera très simple, le Français génère environ 350 kilos de déchets par an, de déchets ménagers. C'est un chiffre qui est connu et donné par l'ADEME. Et un possesseur de chat va générer environ 200 kilos. Donc on voit tout de suite l'importance.
Alors on connaît donc ces fameuses litières, on va dire minérales. Donc celles-ci, bah elles n'ont pas derrière une vie terrible parce qu'elles sont destinées à aller après soit en décharge, soit en incinération.
Voilà, absolument. Donc, dans cette analyse de cycle de vie du produit, ce qui est intéressant pour la litière végétale, c'est que on a un produit à l'origine qui est du bois recyclable. Hein, et puis, quand on est en appartement et qu'on va se séparer de ce produit, il termine dans la poubelle. La litière minérale va être un déchet ultime, c'est-à-dire qu'en France, c'est de l'incinération, hein, et en grande partie. Et pour la litière végétale, on va avoir la possibilité de composter. Donc c'est biodégradable et donc du coup on sort de la problématique de déchets ultimes.
Alors évidemment à condition de ne pas être forcément en appartement parce que qu'on ait de la sciure ou bien du minéral, parfois en appartement on n'a pas tellement le choix. Il y a aussi l'absorption parce que c'est quand même ça qui est important, le pipi et le caca de chat, donc vous avez étudié aussi. Vous.
Oui, oui, absolument. Et puis ce qui est intéressant c'est que sur des produits on va dire écolo, il y a quelquefois une qualité qui peut être un petit peu différente. Là on est vraiment sur un produit, je dirais un cas d'école, hein, puisqu'il est vraiment vertueux jusqu'au bout, puisque en général on a 200% de taux d'absorption, entre 200 et 300% pour la litière végétale, alors qu'une litière minérale basique va faire à peine 100%. Donc ça veut dire que vraiment, on a une qualité irréprochable sur ce genre de produits.
Alors on va vous dire oui, mais ces produits, il faut quand même qu'ils viennent d'Allemagne, parce que ce n'est pas en France, donc on le fabrique. Hein. On va rappeler quand même un chiffre très intéressant, c'est qu'en Allemagne, il y a 80% de forêts domaniales et 20% privées. Chez nous, la forêt domaniale en France, c'est moins de 10%.
C'est moins de 10%. Alors ça a une grosse importance, puisque en Allemagne, on est capable de mettre au point des normes beaucoup plus facilement, par exemple la norme PEFC, et alors qu'en France, par rapport au fait que la forêt est donc, on va dire, fragmentée, à partir de ce moment-là, on comprendra facilement qu'il est beaucoup plus dur de mettre des normes au point par rapport aux petits propriétaires.
Alors je parlais donc effectivement de transport, elle vient comment, enfin, c'est cette litière végétale?
Alors la litière, bon, on n'est pas très loin de la France, il faut savoir que dans le domaine de la litière, on a quand même de la litière silice par exemple qui vient d'Asie, donc là elle traverse le monde, on a de la litière minérale qui vient d'Espagne, qui vient du nord de l'Europe, et peu de litière qui est fabriquée en France. Il en existe, mais peu. Nous, on fait.
On n'est pas
transport.
Bon sur la litière en France, incroyable. Ça.
Eh ben non.
On sait pas faire ça.
Ah, très peu. Il y en a, mais très peu. Par contre, nous, on essaye de faire donc du transport par train. Puis, dernière initiative, on a mis au point une litière également qui peut se jeter dans les WC. C'est la première litière végétale agglomérante. Alors là, c'est extrêmement intéressant puisqu'elle fait 500% de taux d'absorption, donc on en utilise peu. Il y a des petites boules. Je rentre dans les détails,
oui, mais je vous en
prie. Il y a des petites boules qui se forment et là on peut les mettre dans les WC, donc on sort complètement de la problématique des déchets ménagers et on sait, mon cher Denis, que nous croulons sous les déchets dans notre société.
Un seul chiffre, une tonne de déchets ménagers, c'est 500 kg de CO2 à peu près.
Voilà, donc comme on a dit tout à l'heure que c'était le premier déchet ménager des Français, c'est vraiment un impact colossal. Et le fait de pouvoir utiliser ce genre de litière, bien évidemment, on va réduire l'empreinte écologique. Et on sait qu'aujourd'hui, on essaye de trouver des initiatives de ce type. Donc en voilà une très facile pour les possesseurs de chats.
Je n'aurai qu'un mot, miaou. Merci beaucoup Nicolas Dubois, et puis à très bientôt.
Au revoir, miaou également. Au revoir Denis.
Alors, vous pouvez toujours essayer effectivement de boucher votre chat, mais ça ne marche pas. Non, petit bémol quand même, hein, sur les WC, vous ne le faites pas. Ça vaut mieux pas mettre effectivement quand même n'importe quoi dans les WC, parce qu'on reporte le problème quoi qu'il arrive, après sur une station d'épuration. Donc ça, c'est quand même la partie qu'il vaut mieux éviter. Mais pour le reste, c'était tout à fait intéressant d'avoir ces explications. Alors, faisons litière de tout cela après le pôle Nord et les crottes de chat. Un peu de plantes. Oh oui, ça va nous faire du bien. Une autre question.
Bonjour Denis. J'ai entendu parler des plantes médicinales et en particulier des plantes qui soignent dans votre émission. Et je me demandais à quoi correspondait l'ethnopharmacologie. Merci de votre réponse. À bientôt.
Un homme qui connaît très bien cela, qui a d'ailleurs été aussi un élève de Jean-Marie Pelt, c'est Jacques Florentin, qui est le président de la Société française d'ethnopharmacologie. Bonjour à vous, Jacques Florentin.
On a créé cette association il y a 20 ans en essayant d'y rassembler des spécialistes des sciences humaines, donc des gens qui vont s'intéresser au peuple et aux ethnies et qui vont essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes thérapeutiques traditionnels. Et puis on a mis dans ce groupe aussi des gens des sciences de la vie, des pharmaciens, des botanistes, des pharmacologues, pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnent ces médecines traditionnelles et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter dans le futur.
Donc il y a des gens qui vont sur le terrain, qui vont se renseigner alors auprès des chamans, des guérisseurs, des médecins. On collecte, on les écoute, comment on fait?
Alors on a des gens qui parcourent le monde, qui vont effectivement sur le terrain pour recenser ce qu'il reste des traditions orales, parce que dans les pays où il n'y a pas de tradition écrite, le danger est imminent parce que les savoirs se retransmettent mal. Donc on va recenser ces savoirs, dans un premier temps un peu partout dans le monde avec des méthodes que nous avons élaborées au fil des ans, très spécifiques, hein. Il faut respecter des protocoles. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va se poser une question très simple. Est-ce que la plante que m'a révélée le guérisseur, ou tout simplement celle que les gens utilisent dans leur vie de tous les jours, est-ce qu'elle est efficace? Alors pour cela, on fait un extrait qu'on va préparer comme le prépare le guérisseur. S'il fait une infusion, on fera une infusion. S'il fait une macération, on fera la macération. Et ensuite, on va tester cette plante chez l'animal dans son indication. Donc on va essayer de vérifier les renseignements qui nous sont apportés par la tradition. Et là, il faut constater, après avoir dirigé un laboratoire de recherche de Jean-Marie Pelt pendant une vingtaine d'années, 3 fois sur 4, on confirme l'indication thérapeutique traditionnelle.
D'accord, donc à 75% des cas, ça fonctionne. Donc.
C'est tout à fait extraordinaire. Ouais. Ça montre qu'il y a une grande pertinence dans ces savoirs qui se transmettent de père en fils et aussi au travers des livres depuis 2000 ans.
Qu'est-ce qu'on a découvert, par exemple ?
Dans tous les domaines, je veux dire, la pharmacie utilise des médicaments à base de plantes dans la totalité des domaines. Ça va des antibiotiques aux anticancéreux, en passant par les plantes pour la toux, les plantes pour les maux de rein, les plantes pour le stress, l'anxiété. Je veux dire, on couvre tous les domaines.
Pour demain, qu'est-ce qu'on essaye de trouver? Parce qu'on imagine bien qu'il y a des plantes qui ne sont pas forcément encore utilisées en Occident, qui n'ont pas été synthétisées et qui sont déjà utilisées par d'autres personnes.
Alors il y a deux aspects dans la recherche. Le premier, c'est celui qui peut intéresser les grandes firmes pharmaceutiques. Et là, c'est de trouver des plantes qui nous apportent des structures nouvelles pour toutes les grandes maladies sur lesquelles on a toujours besoin de nouveaux médicaments. Je pense à Alzheimer, dont, entre parenthèses, le Percenège a fourni un des grands médicaments qu'on a actuellement en pharmacie, la galantamine. Dans le domaine du cancer, dans le domaine du cholestérol, parce que les médicaments hypocholestérolémiants ne sont pas des effets secondaires, donc il y a des gens qui ne les supportent pas. Donc pour cela, il est peut-être intéressant de trouver des plantes issues des traditions qui ont ces propriétés. Donc ça, c'est la recherche de l'industrie. Mais il ne faut pas oublier qu'une grande partie de notre activité à la Société française d'ethnopharmacologie, puis avec une autre ONG qui est Jana du Monde, c'est d'aller sur le terrain et de voir ce dont les populations ont besoin. Ces gens n'ont pas accès aux médicaments modernes. C'est pas qu'ils préfèrent la médecine traditionnelle, ils n'ont pas le choix. Et donc, on va essayer de leur proposer un éventail d'une trentaine de plantes pour lesquelles nous, on garantit la qualité de la plante, la sécurité et l'efficacité. Et on va leur montrer comment ces plantes peuvent être cultivées, comment on peut préparer des médicaments simples, des pommades, des sirops, pour que ces populations puissent se soigner à moindre frais et avec leurs propres ressources locales.
À quel endroit, par exemple ?
Alors actuellement, au Jardin du Monde, nous sommes dans le Burkina Faso, à Madagascar, au Tibet, là c'est un petit peu difficile en ce moment, au Guatemala, au Honduras, en fait dans 5 pays. Il y a des demandes qui émanent de partout, mais il est très très difficile aujourd'hui de trouver des financements pour ce type de projet.
Alors vous pouvez bien sûr aller sur le site de CO de Mon Amour, hein, vous avez un certain nombre de liens qui sont indiqués, grâce à Anne Gouzon, d'ailleurs notre documentaliste web, on la remercie. Et puis Plantes médicinales et traditions et thérapeutiques aux éditions Ouest France, c'est un ouvrage qui est signé Jacques Florentin. On y retourne à vos questions juste après Ndidi.
Le plein de nature et d'environnement, sans se prendre la tête, c'est dans CO de Mon Amour avec Denis Chessou.
And all at once I knew at once, I knew he needed me. Until the day I die, I won't know why, I knew he needed me. It could be fantasy, oh. Like a dime a dance, I'll take a chance, I will, because he needs me. No one ever asked before, because they never needed me. Maybe it's because he's so alone. Maybe it's because he's never had a home. He needs me, he needs me, he needs me.
once, for once in life, I finally found that someone needed me. And if it turns out,
il a besoin de moi, he needs me, c'était très agréable. NDD sur France Inter pour essayer de se rendre la vie meilleure dans ce monde complètement dingue. Et nous revenons donc à vos questions, donc questions des auditeurs, c'est-à-dire vous qui nous écoutez chaque semaine, on vous en remercie. Avec une petite question sur l'huile de palme, et là c'est Elisabeth Laville qui va s'y coller, qui connaît bien ces sujets avec son site entre autres Mes courses pour la planète. Donc Elisabeth, bonjour, d'où vient cette huile de palme?
Bonjour Denis. Eh bien, voilà le début du problème. Elle vient. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur l'huile de palme, c'est que c'est une huile qui est utilisée traditionnellement dans pas mal de cultures dans le monde. Et elle a connu un développement complètement incroyable au XXe siècle avec l'alimentation industrielle. Pourquoi ? Parce qu'elle est bon marché et polyvalente.
D'accord.
Premier point. Deuxième point, pour répondre à votre question, elle est produite principalement en Asie du Sud-Est, Malaisie, Indonésie, etc. Et aujourd'hui, elle représente un tiers de l'huile végétale produite dans le monde. C'est la deuxième, en fait, après l'huile de soja.
Oui.
Alors, le truc assez rigolo ou qui n'est pas très rigolo, c'est qu'en fait, c'est un produit qui a des impacts environnementaux absolument colossaux.
Oui.
Et qui, en même temps, pour nous consommateurs, il est difficile d'avoir une action. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, on ne sait même pas qu'elle est dans les produits qu'on consomme.
C'est-à-dire aussi bien des cosmétiques que de l'alimentation
C'est présent dans un produit de grande consommation sur 10, avec certaines catégories qui sont carrément très concernées. Il y a une étude qu'a faite l'an dernier l'ONG environnementale, les Amis de la Terre, dans les supermarchés, et en France, et ils voyaient alors que l'huile de palme était présente dans 41% des biscuits apéritifs, 37% des soupes mayonnaise huile, 61% des chips, 54% des chocolats, des pâtes à tarte, 20% des plats préparés, 49% des pâtes à tartiner, 47% des viennoiseries, et même 13% des glaces, etc. Donc même dans des produits dans lesquels on ne s'attendrait pas à trouver de l'huile végétale. Et le problème étant que la plupart du temps, elle n'est pas présente, elle n'est pas signalée sur l'étiquette sous le nom huile de palme, comme c'est un ingrédient qui n'est pas présent en grande quantité. On voit marqué juste huile végétale, voilà. Et du coup, on ne sait pas ce que c'est. Et puis comme c'est un tout petit ingrédient, on n'y fait pas énormément attention. Et du coup, les fabricants, ils ne font pas non plus très attention. Comme ce n'est pas un ingrédient hyper important sur lequel jusqu'à présent, ils risquaient d'être beaucoup importunés. Ce n'est pas stratégique, ce n'est pas un ingrédient dont on va parler dans la pub, etc. Du coup, on n'en parle pas. Et du coup, on met le moins
d'infos possible.
Moins d'infos, en fait. Et le moins d'efforts aussi
possible
pour améliorer la situation. Alors, je n'ai pas dit effectivement qu'on le trouve aussi dans les produits cosmétiques, pas mal. Et il va y avoir un problème en plus qu'on évoquera, qui est que c'est une bonne source d'agrocarburants aussi, va augmenter la pression dans les pays producteurs.
Et ça a déjà commencé, parce que d'ailleurs tout ça, ça veut dire aussi donc déforestation en Indonésie, en Malaisie. Et quand il y a déforestation, il y a augmentation de gaz à effet de serre, il y a perte de biodiversité, il y a destruction des habitats. Enfin, c'est énorme derrière.
Voilà, oui. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est effectivement, déjà la demande est croissante, parce que je crois que la demande a été multipliée par 6 en 20 ans. C'est lié, et ça s'accélère là avec l'émergence, évidemment, l'accélération des agrocarburants. Le problème, effectivement, j'ai pas dit que l'huile de palme vient du palmier à huile, et que le palmier à huile, c'est pas un arbre qui pousse dans la forêt comme ça, c'est dans des plantations cultivées en agriculture intensive. Donc on déboise, on rase des forêts entières, des forêts anciennes, pour planter du palmier, du palmier, du palmier, du palmier. Et donc outre le déboisement, ça provoque, conséquence du déboisement, ça provoque aussi une destruction des habitats pour des espèces animales qui étaient déjà menacées avant ça, notamment l'orang-outan, dont on considère que si on change rien à la façon dont on consomme de l'huile de palme et dont on la produit, en 2020, il n'y en a plus.
C'est ça. Il fait partie des 5 grands singes, ce fameux orang-outan, et du côté de Bornéo. Il n'aime pas tellement l'huile de palme. Alors maintenant, les bonnes nouvelles, et qu'est-ce que l'on peut faire ?
Alors, les bonnes nouvelles, c'est qu'on commence à voir quand même des entreprises ou des enseignes engagées qui essaient de prendre des positions sur ce sujet-là. Je pense à une enseigne suisse qui s'appelle Migros, par exemple, qui a été une des premières à s'engager dans... Alors, pas à substituer l'huile de palme, parce que la réalité, c'est que c'est assez difficile, ou alors on substituerait par le soja, ce qui n'est pas mieux et pose en gros les mêmes problèmes. Donc, ils essaient plutôt d'évoluer vers de l'huile de palme dite durable, produite dans des conditions plus sympathiques, en biologique, voire en agriculture enfin raisonnée, oui, qui, même en commerce équitable, etc. etc.
C'est donc, quand même pas la majorité de l'espèce, qu'on va dire.
Ah ben non, mais pour l'instant, il n'y en a quasiment pas. Ouais. Donc il y a deux enseignes qui sont engagées là-dedans, Migros, donc les distributeurs suisses dont j'ai parlé, et The Body Shop sur la partie cosmétique. Mais voilà. Et quand même, alors en 2004, un certain nombre d'exportateurs d'huile de palme, de producteurs et de distributeurs se sont engagés dans une initiative pour essayer d'améliorer le sujet quand même, qui s'appelle la table ronde sur l'huile de palme durable, qui vise à essayer de promouvoir des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement, notamment limiter les pesticides, essayer de choisir les forêts qu'on rase, si je puis dire, pour c'est horrible à dire. Mais voilà.
Moi, qu'est-ce que je peux faire ?
Alors, c'est un sujet difficile parce que c'est un des sujets sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose. La première chose qu'on puisse faire, c'est s'informer.
En fait, il est partout, c'est invisible.
Et voilà, et puis qu'il n'y a pas vraiment d'alternative aujourd'hui, en fait. Donc, on peut déjà lire les étiquettes pour s'informer, lire les Amis de la Terre sur le site, nous, Mes Courses pour la Planète, on propose, il y a pas mal d'infos là-dessus. Donc, essayer de regarder déjà et de comprendre quel est le problème. Les Amis de la Terre publient des guides assez bien fichus là-dessus.
Et puis, si on a le temps, on peut aussi écrire aux entreprises.
Alors, c'est le sujet sur lequel, en fait, on ne peut pas vraiment modifier notre consommation. Si ce qu'on peut faire, c'est si on diminue notre consommation de produits industriels, en gros, si vous faites vos chips vous-même, eh ben, il n'y aura pas d'huile de palme, par définition, parce que vous allez prendre de la pomme de terre et de l'huile d'arachide, mettons, et vous n'avez plus d'huile de palme dans vos chips. Donc, les biscuits, même chose. Enfin, il y a un certain nombre de produits. Si on arrive à faire, à diminuer les consommations de produits industriels, on aura logiquement moins d'huile de palme, puisqu'on la trouve surtout dans les produits très transformés, très industriels. Et puis, effectivement, là, c'est le sujet sur lequel notre consommation, on peut la modifier un peu, mais pas énormément. Ce qu'on peut faire, c'est un, s'informer, et deux, s'engager, c'est-à-dire utiliser notre pouvoir de consommateur pour écrire aux entreprises, écrire aux distributeurs, à chaque fois qu'on en voit sur les étiquettes, en disant qu'est-ce que vous faites pour garantir que cette huile de palme provient de sources durables et produite dans des conditions respectueuses de l'environnement, etc. Et puis là, c'est vraiment le sujet sur lequel il faut être activiste, en parler autour de nous pour faire en sorte que l'information, la prise de conscience se répande. Et puis quand même, si on peut conclure sur un dernier point, refuser les agrocarburants. Parce que c'est sûr que si on encourage les agrocarburants, je crois que les ONG estiment que globalement aujourd'hui, il faut 25 mètres carrés de plantation pour couvrir les besoins annuels en huile de palme d'un consommateur français, essentiellement via alimentation et cosmétique. Et que par contre, si ce même consommateur se mettait à n'utiliser que des agrocarburants à la place de l'essence qu'il utilise aujourd'hui,
c'est un désastre.
C'est multiplié par 20 l'impact. Donc c'est calamiteux. Oui. Donc refuser les agrocarburants.
J'ai impacts sociaux, famine, etc.
Exactement. Oui, alors on n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que l'explosion des agrocarburants crée une forte demande en huile. Je crois que c'est déjà presque 10% de la consommation d'huile dans le monde, les agrocarburants, et du coup, notamment sur l'huile de palme, qui n'est pas très chère, et du coup, on voit des conflits horribles entre les agriculteurs, dans les supermarchés, etc., dans les pays du Sud, ça commence à être le conflit carburant-alimentation, commence à être vraiment vivace, notamment sur ce sujet-là.
Voilà. Manger ou conduire, il faut choisir. Merci beaucoup, Elisabeth Laville. 3W, mes courses pour la planète. Et puis à très bientôt. Au revoir, Elisabeth.
À très bientôt. Au revoir, Denis.
Voilà, donc on est absolument dans l'effet papillon qu'on connaît, c'est-à-dire nos actes d'achat d'un côté, les conséquences sur l'environnement. Bah, on essaye effectivement de s'informer au maximum, puis de changer quand même gentiment nos habitudes. Pardon à Caroline de la région Centre, parce que je vais sucrer sa question. Je ne sais pas si je suis bien là, c'est peut-être le climat rennais, nos amis de France Bleu Armorique. Enfin voilà, donc j'ai oublié la question. Et je vais essayer de ne pas oublier donc la suivante, donc toujours question d'auditeur, concernant cette fois-ci la viticulture.
Bonjour Denis, c'est Vincent à Lyon. Je me permets de vous interroger sur le paysage de la viticulture dans les années à venir, au vu du réchauffement climatique qui se profile. Merci pour votre réponse.
Quel bon vin et quel bon vent vous amène. Frédéric Denry, bonjour.
Bonjour Denis.
Alors avec vous, nous déclinons cet ouvrage « Quelle France en 2030 » chez Armand Collin. Et donc, réchauffement, nous le savons, tout ceci monte vers le nord et ça va aussi impacter donc les vignobles. Alors ça ne veut pas dire que tout est foutu, loin de là. On va rappeler que la surface agricole utile en ce qui concerne les vignobles en France, c'est à peu près 4% en moyenne. Mais alors on est à la fois dans de l'écologique, dans de l'économique, dans du culturel. Ça va très loin, effectivement, le vin. En 2030, à quoi peut ressembler la France vinicole ?
Elle aura commencé à changer. Il n'est pas impossible que les vignobles du Languedoc-Roussillon aient été abandonnés. Non pas parce que la culture de la vigne y sera rendue impossible, mais simplement le vin fourni, les jus fournis seront trop complexes pour fabriquer des vins de qualité.
C'est-à-dire qu'on fera du sirop, quoi.
On fera du sirop. On fera déjà qu'à Châteauneuf-du-Pape, on a 14,7 degrés.
Oula.
c'est beaucoup. C'est beaucoup.
Ça cogne. Hein.
Et ça cogne. Ça cogne. Et ils en sont à se dire qu'il va peut-être falloir désalcooliser les vins par des méthodes physiques comme le font les Californiens, les Chiliens, les Sud-Africains, etc. Donc le Languedoc-Roussillon, je ne suis pas convaincu qu'il puisse encore fournir des vins de qualité. Les vins du Minervois, qui ne sont pas mauvais, ils seront peut-être un peu lourds, si vous voulez. Alors pour les autres vignobles, a priori, ça va aller. Parce que, comme, en gros, le sud remonte vers le nord, la chaleur remonte vers le nord, le climat de la Côte d'Azur remonte vers le nord. Ça veut dire que les vignes, comme n'importe quelle plante, hein, sont habituées à une certaine chaleur moyenne, une certaine température moyenne. Bah, cette température moyenne remonte. Donc, en latitude, le vin qui se trouve à peu près entre 30 et 50 degrés de latitude nord, bah, remonte de plus en plus haut. Et il aura peut-être atteint en 2030 les limites qui étaient les siennes, au XIIIe siècle, au cours de ce beau Moyen-Âge, si bien décrit par Emmanuel Leroy Ladurie, à cette époque, qui faisait du vin? C'était pas Bordeaux, non. C'était les Belges, c'était les Polonais, c'était les Suédois et c'était les Anglais.
Et on fête toujours, effectivement, du côté de Suresnes, du côté de Bagneux, les fêtes de la vigne, etc., même s'il n'y a plus une seule vigne. Enfin, si, un petit peu, mais pas...
Mais on faisait du vin à Paris, bien sûr, bien évidemment. De toute façon, c'est pas compliqué. Ce qui a structuré le territoire français au Moyen-Âge, ce sont les abbayes. Et les abbayes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Comme en Angleterre, d'ailleurs, les abbayes avaient deux fonctions. La première, c'était de déforester. Il fallait chasser le malin et puis donner du travail aux paysans pénitents.
On essartait.
On essartait et puis ensuite, il fallait faire du vin. Et le vignoble anglais était un grand vignoble parce que le sud de l'Angleterre était parsemé d'abbayes qui avaient pour obligation de faire du vin. C'est ensuite Henri VIII qui a tout arrêté avec l'anglicanisme. Mais voilà vers quoi on va. Le vignoble remonte vers le nord et les cépages, entre guillemets, de qualité, ceux qu'on cultive à Bordeaux, les cabernets par exemple,
Merlot, oui.
Ou les merlots, ben les Anglais sont en train de se demander s'ils ne vont pas troquer leurs cépages un peu bizarres, ceux de la Moselle et de l'Allemagne, pour refaire ce qu'ils faisaient au XIIIe siècle, pour refaire du vin de Bordeaux.
Parce qu'on va le rappeler, on n'a qu'une seule espèce qui est Vitis vinifera, puis après on a 6000 variétés, on va dire, qui vont arriver
voilà,
de cépages.
Et on en élève, respecter les mots des vinificateurs, on en élève 70-80 variétés à peu près. Il y en a une vingtaine qui font l'essentiel du marché. Alors chaque variété, c'est quoi? C'est une Vitis vinifera qui est habituée à une certaine granulométrie du sol, une certaine ressource en eau, un certain climat et une certaine façon de faire. C'est ça la notion de terroir, hein, c'est l'écologie de la vigne.
Mais il se peut, par exemple, qu'à Bordeaux, qui fait moins de 130 000 hectares aujourd'hui de vignes, on change de cépage. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire que ça peut être ça. Et puis peut-être qu'on arrosera. Enfin, là, c'est déjà deux hérésies, hein, lorsqu'on parle de ça au Bordelais. Mais peu importe.
Vous avez tout dit, Denis, parce qu'effectivement, tous les viticulteurs et les conducteurs de chais, ils pensent changer de cépage, par exemple, importé ou du Grenache ou du Syrah, du Languedoc-Roussillon, ou carrément du Rioja ou du Sidi Ibrahim. Il y a des gens qui... Enfin, c'est une possibilité, en tout cas, à l'INRA. Donc, il y a ça. Et puis, effectivement, il y a, par exemple, arroser au goutte à goutte, ce qui est juste autorisé en Côte-du-Rhône à l'heure actuelle. Il faut bien comprendre que ça, le fait qu'on se dise simplement ces deux choses, changer de cépage et arroser au goutte à goutte, ça remet en cause complètement la notion d'AOC et la notion de terroir. Ce que remet en cause le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, ce n'est pas tellement la culture de la vigne, c'est la notion de terroir. Encore une fois, le terroir, c'est la discussion permanente entre un climat, une terre, une quantité d'eau et une façon de faire. Le Sauternes, par exemple, c'est quoi? C'est une toute petite ville. C'est une colline et c'est des brumes matinales à certaines périodes de l'année et un taux d'humidité moyen qui n'est pas celui du village d'à côté.
Et donc ce champignon, le Botrytis cinerea.
Alors, voilà, tout ça attire le Botrytis cinerea qui, se fixant sur la peau des baies, des grains, entraîne une concentration, enfin accélère l'évaporation de l'eau et donc entraîne une concentration plus forte des sucres. Si ces brumes matinales qui attirent le Botrytis, ou en tout cas qu'ils maintiennent, ces brumes matinales ne sont plus là, Botrytis, il va voir ailleurs. Donc il n'y a plus de Sauternes. Alors ça, c'est un cas à part, le Sauternes, c'est particulier, mais de façon générale, ce qui fait peur à l'INAO, ce qui fait peur aux viticulteurs, c'est la disparition, la dissociation, si vous voulez, la désynchronisation des éléments qui fixent la notion de terroir.
Le climat en 2030 va sélectionner les bons vignerons et sélectionnera aussi les bons vinificateurs. Ah ben, il y en a plein, hein, je sais pas, mais encore plus aujourd'hui.
Il y a une chose qui ne plaît pas aux conducteurs de chais, par exemple, sont les jus qui arrivent trop chauds. En 2003, la grande difficulté qu'ont eu les viticulteurs, c'est qu'ils ont livré aux chais, aux maîtres de chais, des jus trop chauds. Il fallait les refroidir. Mais comment on les refroidit? Si on les refroidit trop vite ou trop lentement, le contenu aromatique, le contenu en sucre, en acide...
Il y a une perte.
Il y a une perte. Enfin, il n'est plus le même. Donc, il faut corriger derrière. Mais si on corrige, on n'est plus dans le cahier des charges de l'INAO. Vous voyez? Et les congrès qui ne cessent de s'enfiler au fil des ans sur l'évolution du vin, on y constate que les viticulteurs français qui avant regardaient avec une certaine condescendance les cousins américains, sud-africains, chiliens, néo-zélandais, australiens, se disent qu'au moins eux, là-bas, ont élaboré des techniques qui leur permettent de pallier en partie la chaleur des jus, la complexité beaucoup plus forte des vins. Ils sont arrivés à les corriger pour en faire, finalement, des vins de qualité. Et donc, effectivement, il y a une façon de faire les vins qui sera différente. Les viticulteurs ne pourront pas continuer à travailler simplement en changeant de cépage. Un vin, ce n'est pas qu'un cépage. Un vin, c'est un terroir. Et donc, pour essayer artificiellement de reconstituer le terroir qu'aura dissocié le climat, il faudra des techniques particulières qui existent, mais qui vont effectivement sélectionner et les viticulteurs et les conducteurs de chais. Donc, a priori, tout va bien. Sauf que le milieu du vin est un milieu extrêmement conservateur. Et il n'est pas certain qu'en 25 ans, ils aient accepté de changer leur technique.
Alors, à consommer avec modération, sauf votre livre, « Quelle France en 2030 » de Frédéric Danhé chez Armand Collin. Et puis, à très bientôt. Au revoir, Frédéric.
Au revoir, Denis.
Mazette. Bois doucement, Riton. Un bon vin, ça se déguste.
Si c'était pas si bon, je boirais pas si vite. C'est vrai qu'il est bon. C'est pas du jus de grenouille, ça.
Du jus de grenouille? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une expression populaire pour parler de vin ordinaire.
Ah, voilà. C'est imagé.
Ça, vous l'avez reconnu, évidemment, ce sont un extrait des Enfants du Marais. Surtout pas une goutte, si vous prenez la route. C'est surtout pas une incitation à boire, loin de là. Mais juste vous dire ce qu'il sera demain de nos vignobles avec ce réchauffement climatique. Merci à Arnaud Chapa et Dimitri Gronoff qui étaient à Paris. Un grand merci à Thibaut Bourgeon, à son équipe de France Bleu Armorique qui m'ont reçu très gentiment aujourd'hui en direct de Rennes. Merci à Sophie Le Doré, à Jean-Christophe Pinaza, mon camarade d'écriture, et Xavier Pestugia qui réalisait cette émission.